I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer, à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi, ainsi que sa maman Taïwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugiée et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude et la suite de l'Odyssée de Merci. Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 2, Rideau de paillettes. Après avoir écrit la chanson « Merci », Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont toujours la petite fille et sa maman dans un coin de leur tête. Mais ils sont sans nouvelles. En décembre 2017, ils apprennent qu'avec cette chanson, ils sont sélectionnés pour participer à Destination Eurovision, le nouveau programme de France 2 qui doit élire l'artiste qui représentera la France à l'Eurovision. Leur groupe, Madame Monsieur, existe alors depuis quelques années déjà, mais malgré plusieurs succès, ils peinent à toucher le grand public. Alors, cette émission en prime time, c'est la chance de leur vie. Émilie et Jean-Carl remportent la première manche du télécrochet. Leur avenir est sur le point de basculer.
Deux semaines après, on participe donc à la finale, qui cette fois-ci est en direct. Donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup de fans de l'Eurovision qui sont venus dans le public.
Il y a nos parents aussi.
Et on sent qu'il se passe quelque chose.
Il y avait mon frère, ma sœur, il y avait des copains, il y avait mon père et ma belle-mère. Et je me souviens, improbable de voir mon père dans la fosse à Saint-Denis, dans un studio télé avec son petit drapeau français comme ça, et qui avait fait le trajet depuis Nice. Et quand il m'a vu, il me dit j'ai failli m'évanouir. Enfin, genre de bonheur, de stress aussi, ce stress des résultats. Enfin, je pense qu'il a stressé plus encore que nous, comme tous nos proches finalement. Il rigolait parce qu'il y avait plein d'eurofans, de gens qui étaient dans le public, qui venaient les voir. On peut faire une photo avec vous, avec ma sœur, avec mon frère. Genre, d'un seul coup, il comprenait qu'il se passait un truc. Enfin, la télé, c'est particulier pour ça. Mais c'était, je pense, un des moments les plus forts qu'on a vécu.
Et le public vote massivement pour Merci. Et on gagne.
Quand on nous annonce qu'on gagne, c'est Garou qui annonce que c'est Madame Monsieur, Merci. Et là, on voit le...
On apprend qu'on va aller faire l'Eurovision.
Qu'on va représenter la France devant le monde avec une chanson qu'on a écrite qui parle de cette histoire-là. C'est complètement fou. Enfin, sur le moment, quand tu prends conscience de ça, c'est vertigineux.
Et puis, moi, le sentiment que j'avais, c'était de dire, je le savais, voilà, je savais bien qu'on était capable de faire ça. Je savais qu'on avait ça en nous.
Ouais, putain, on l'a fait. On le savait, quoi, que notre musique pouvait toucher les gens à ce point-là. Dans ma façon de me présenter sur scène, quoi, il y a un déclic à ce moment-là. Je me suis sentie légitimée, où on m'a dit, t'as le droit, tu vois, ça c'est la preuve ultime. Et t'es pas là juste parce que t'as envie, mais en fait, t'es là où tu dois être. Et j'ai arrêté de m'excuser un peu d'être sur scène, et ça a changé énormément de choses pour moi, ce vote du public. Et maintenant, c'est maintenant que tout commence, finalement. À partir de ce moment-là, il y a un espèce de rideau énorme de paillettes qui nous tombe sur la tronche. On a des paillettes partout. Bravo, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous ressentez ? Des micros dans tous les sens. Et on descend et on nous tire tout de suite en disant « Venez, tout de suite, mini-conférence de presse. » On n'avait jamais vécu ça de notre vie. J'ai une photo où j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et, Et on voit, je sais pas combien il y a de micros tendus vers moi, comme une espèce d'étoile au-dessus de ma tête. Il doit y avoir 20 micros peut-être de toutes les radios différentes. Et en fait, cette photo-là, elle marque vraiment le début de la course, quoi. C'est ça y est, ok, t'as compris ce qui va se passer. Maintenant, tout le monde veut savoir qui est Madame Monsieur, comment ça va, enfin comment est venue la chanson, qu'est-ce que raconte la chanson, ce que bouffe Madame Monsieur au petit-déj. Enfin, c'est tout commence là, quoi, vraiment.
On bascule vraiment dans un autre, dans une autre dimension, c'est-à-dire que il y a un emballement médiatique, il y a tous les journalistes qui veulent nous avoir, tu rentres dans un espèce d'ouragan où là tu commences à comprendre dans quoi tu viens de mettre les pieds et où tu maîtrises plus grand chose. On n'était pas du tout préparé à ce qui allait se passer après, quoi.
Dès le lendemain soir, les artistes sont invités au journal télévisé de Laurent Delahousse. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La veille, alors qu'ils sont en direct dans Destination Eurovision, SOS Méditerranée mène une opération en mer qui tourne très mal. Plusieurs personnes décèdent. Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ne l'apprennent qu'à la fin de l'émission. Le lendemain, lorsqu'ils arrivent sur le plateau du JT, c'est avec les images du drame que le présentateur les accueille.
Laurent Delahousse nous fait venir sur le plateau en diffusant les images, en nous disant « Et alors, vous avez vu ce qui s'est passé hier soir ?» Donc nous, on est là. Et c'est très difficile pour nous de trouver l'équilibre. On est à la fois hyper heureux de ce qui nous arrive. On nous invite pour parler du fait qu'on va faire l'Eurovision et on nous montre ces images-là. Et on est heureux, mais il ne faut pas qu'on soit trop heureux parce qu'effectivement, il s'est passé ça qui est dramatique et on parle de ce sujet-là. Mais en même temps, il y a à la fois la joie d'être là, cette carrière qui commence à démarrer pour nous et en même temps le message de la chanson qui nous demande de faire attention à ce qu'on dit, de maîtriser notre discours. Tu vois, il y a tout qui se mélange et c'est à ce moment-là qu'on comprend que ça va pas être facile, en fait. Mmh. Notre position, elle va être très compliquée. Elle peut même être dangereuse, en fait, pour nous. Il va falloir qu'on trouve le bon équilibre. Notre position est pas évidente, quoi, à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous lui répondez?
Faudrait qu'on revoie les images, mais on a dû certainement dire ce qui a fait partie de notre discours après tout le long de ces mois de promo. C'était de dire, justement, avec cette chanson, ce qu'on permet, c'est de mettre un visage et un nom sur ce qu'on appelle migrant, sur cette notion qui fait peur, parce qu'en fait, elle est floue. Et les gens ont peur de ce qui est flou, les gens ont peur de l'inconnu. C'est ce qui provoque le racisme, la discrimination, c'est la peur de l'autre. Donc, mettre un prénom et raconter une histoire sur un sujet aussi grave, en fait, ça permet d'y mettre de la douceur, de personnifier la chose et de la démystifier quelque part. Ça la dédiabolise.
Après ce passage au journal télévisé, l'exercice se poursuit. Pendant les 4 mois qui précèdent l'Eurovision, Émilie et Jean-Carl, alias Madame Monsieur, sont invités à chanter Merci sur tous les plateaux télé, dans toutes les émissions de radio. Ils sont interviewés partout dans la presse. Leur planning est surchargé, ils ont une dizaine d'attachés de presse. En une soirée, ils sont passés de l'anonymat à la folie médiatique.
Je me souviens que nos équipes de promo nous disaient « Mais vous savez, ce que vous vivez là, même les plus grandes stars internationales vivent pas ça. Là, c'est un truc que vous allez vivre une fois dans votre vie. Quoi. C'est un truc, c'est incroyable. » quoi. C'était drôle, je me souviens de moments où des choses qu'on aurait fait 6 mois avant, on s'y serait préparé 3 semaines. On regardait l'agenda à 23h quand on rentrait chez nous. Bon, demain, on fait quoi? On fait Michel Drucker, on fait l'émission de Mouloud Achour.
Bonne nuit chérie, à demain.
Qu'est-ce qu'ils nous demandent? On joue ça, bon voilà, puis hop, et puis le lendemain, c'était reparti. Pendant cette période, ça nous arrive très régulièrement de répondre à des interviews depuis notre lit, par exemple, de faire des matinales de radio. Où on nous appelle à 6h du matin, on met un réveil à 6h du matin, on fait la matinale d'RTL, on est au téléphone, on passe dans l'émission, on est couché dans le noir dans notre lit, et puis on raccroche, puis on redort une heure ou deux. Enfin voilà, ça nous arrivait plusieurs fois de faire des choses comme ça.
En parallèle, le duo termine un nouvel album et il donne des concerts dans toute l'Europe.
Dans le cadre de l'Eurovision, Le principe, c'est quand même d'aller jouer, d'aller participer à des télés aussi à l'étranger. On s'est retrouvés à faire des prime time en Ukraine, aller jouer à Madrid, à Tel Aviv, à Rotterdam.
Et en même temps, on allait faire la promotion de notre musique en allant faire des plateaux radio partout en France, où là aussi, on s'est rendu compte de l'impact de la chanson.
C'est-à-dire qu'on, c'était fabuleux.
On arrivait, on faisait des plateaux en plein air devant 20 000 personnes, et t'as 20 000 personnes, au moment où tu commences à jouer, sortent les portables et chantent avec toi. Et c'était incroyable pour nous, quoi. Voilà, c'était notre première expérience de véritable succès populaire, quoi. Mmh. C'est vraiment le vrai succès populaire, celui où les gens, ils arrivent et ils chantent ta chanson. Mmh. Quoi.
Tout le monde, merci, merci, les mains en l'air. Merci, 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 merci.
Mais c'est vrai que c'était assez dingue. Enfin, c'est même quand j'y repense aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était pas moi en fait, parce que on l'a vécu à la fois à fond et en même temps c'est allé tellement vite que des fois
c'est
je
comme
me dis
si
attends,
on
a vraiment fait ça. Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est comme si on était hors de nous presque par moment, entre la fatigue, le décalage avec notre vie de 3 mois avant, cette espèce de tourbillon. Je pense qu'inconsciemment on s'extrait de nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment une espèce de parenthèse étrange de notre vie.
Et qui arrive d'un coup, du jour au lendemain, en fait.
Sauf qu'en parallèle de ce marathon médiatique, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. On recherche Merci et sa maman. Merci est née en mars. C'est un bébé de 11 mois et sa maman dans la nature. On ne sait pas où elles sont.
La chanson, elle parle de la naissance de Merci, mais après, on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer. Donc, dans cette tourbillon médiatique, il y a toujours ça dans un coin de notre tête, en fait. On répond aux questions et en se disant, mais on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas ce qui leur est arrivé.
Le couple va se mettre en tête de les retrouver. Deux journalistes touchés par l'histoire de Merci décident de les aider. Éric Valmire de Radio France et Alessandro Puglia, un journaliste italien. Ils se mettent au travail dans le plus grand secret.
Donc les semaines passent avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'allers-retours, de coups de fil, de mails, de messages WhatsApp. On discute avec les personnes qui peuvent potentiellement nous aider depuis l'Italie à les retrouver. Et donc les semaines se passent avec des messages, un peu comme une enquête parallèle qui nous tient au courant de l'avancée des recherches, en disant tel contact a échoué, tel contact, chez certains anciens agents de police locaux, a fonctionné, n'a pas fonctionné. Donc on sait que l'enquête avance.
L'enquête avance, mais il n'en parle à personne.
On nous conseille de faire en sorte de ne pas attirer la lumière sur Merci et Taïwo. On ne sait pas encore où elles sont exactement, on ne sait pas dans quel environnement elles évoluent à ce moment-là, et potentiellement, elles peuvent être en danger. Et le fait d'attirer la lumière sur elles, qu'il y ait de la médiatisation sur leur histoire, elles peuvent devenir une potentielle cible.
Aux médias qui posent sans cesse la question, et même à leurs proches, Émilie et Jean-Carles ne disent rien. D'un côté, les projecteurs, de l'autre, l'enquête de l'ombre.
On est vraiment pris entre deux feux. C'est un moment où on est coupé en deux entre le show médiatique qu'on est obligé de mener. Il y a plein d'enjeux très importants d'un côté et de l'autre, dans l'ombre, il y a cette espèce d'enquête. La question de savoir si Merci et sa maman vont bien, sont en vie, elle est tous les jours dans notre tête. À chaque fois qu'on chante la chanson, à chaque fois qu'on répond à des questions sur elle, on a cette petite voix qui nous dit « Je vous en prie, faites qu'elles aillent bien, qu'elles soient vivantes ».
Ce double jeu n'est pas la seule difficulté à laquelle les artistes font face. S'ils ont désormais des fans fidèles, ils subissent aussi une avalanche de critiques.
Quand on commence à parler de toi dans les médias, bah ça commence à faire parler, ça commence à parler sur les réseaux, ça commence à critiquer, ça commence à dire... voilà.
Il commence à y avoir des partis politiques qui s'en mêlent, on commence à recevoir des messages. Oui, à ce moment-là, on est dans les feux et les foudres de Twitter, des commentaires de gens qui se déchaînent. Alors, on a un peu de tout, hein. C'est un joli folklore entre les anti-migrants qui
nous traitent de collabos.
Qui nous traitent de collabos ou qui nous traitent de... qui considèrent qu'on est des complices du terrorisme, du terreau terroriste en France, enfin, des trucs sympas, des joyeusetés de ce genre. Chaque fois qu'il y a un attentat, malheureusement, eh ben, hop, on a droit à un petit tweet qui se reproduit en plusieurs milliers d'exemplaires pour dire voilà, voilà, c'est merci qui tenait le couteau de cette personne.
Et ce n'est pas fini, ils sont aussi attaqués dans le camp adverse.
Le truc, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait une incompréhension médiatique, c'est-à-dire que parce qu'on avait fait une chanson qui racontait l'histoire de Merci et sa maman, qui se trouve être nigériane, migrante, c'était en plus dans le feu de l'actualité, à ce moment-là, on est tout de suite catalogués comme des artistes engagés, politisés, ayant de façon sous-jacente forcément un discours et un point de vue ferme sur la situation politique. C'était un peu genre, donc attends, je comprends pas. Si vous parlez d'un sujet d'actualité, finalement, ça veut dire que vous êtes des artistes de gauche. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Enfin, essayez de vous rendre plus lisible, alors qu'en fait, nous, on fait juste des chansons sur des sujets qui nous touchent. Et on nous demandait sans arrêt de nous justifier. En fait, on s'est retrouvés nous face à des médias et des gens qui attendaient de nous de prendre des positions très fermes et assurer sur ils voulaient notre avis absolument sur la situation, ils voulaient qu'on prenne la parole, qu'on soit un peu chef de file même parfois, donc on a déçu les gens qui attendaient ça de nous. En fait on était attaqués de toutes parts, il y a eu une confusion. Nous on a fait une chanson sur une histoire qui nous a touchés, et on n'a jamais été des artistes politisés, et c'était vraiment aussi pour ça que c'était difficile pour nous. On voulait pas s'inventer militant, si tu veux, ça aurait pas eu de sens.
J'avoue que quand on a écrit cette chanson, on était un peu naïf. On s'est dit, voilà, juste ça va toucher les gens et tout, mais on s'attendait pas du tout à ce que ça fasse autant de. Ça suscite autant de réactions, en fait. Réactions vraiment épidermiques, que ce soit ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Enfin, tu vois, il y a une espèce de mélange. C'était ni notre rôle, c'est notre rôle pour personne, en fait, pour les deux extrêmes. Voilà. Mmh. On était jamais à notre place, quoi, en fait.
Et de l'autre côté, il y a aussi toute une frange de la population qui nous taxe de vouloir faire notre beurre sur le dos des migrants, de faire une chanson sur Merci sa mère et de s'en foutre de la suite de leur histoire. Enfin, c'est assez dur à encaisser. Bien sûr qu'on soit énormément plus de messages d'amour, et sinon, je pense que ça aurait été très compliqué à vivre. Mais c'est vrai que c'était plus dur de faire face aux messages de gens qui disaient « voilà, ils font une chanson sur Merci ». Et en fait, ils en ont rien à foutre. Ça a été plus dur pour nous d'y faire face. Et on a eu des moments de solitude, effectivement.
Ce qui est énervant, c'est que les gens en parlent sans savoir. Ils ne savent pas du tout. Même des gens qui ont une parole publique écoutée, quoi, en fait. Hein. On a parlé, nous, dans certaines émissions de grande écoute à l'époque, en nous traitant de tous les noms, de bobos, de je ne sais pas quoi. Les gens n'ont pas la moitié du quart d'informations de ce qui se passe, en fait. Ils ne savent rien du tout et ils se permettent quand même de critiquer. Et ça, c'est très énervant dans la mesure où, en plus, on décide de rien dire, de garder notre ligne de conduite.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant tout ce temps, Émilie et Jean-Carl sont en contact permanent avec Éric Valmire, le journaliste qui recherche Merci et sa maman.
Le 4 février, on devrait en savoir plus sous quinzaine, on n'en revient pas de galérer autant pour la retrouver. Le 13 février, on a retrouvé Merci, elle va bien, mais je n'en sais pas plus, j'aurai des détails dans la journée. Donc là, je me souviens que mon cœur a explosé dans ma poitrine, quoi. Vraiment, c'est comme si c'était des proches à moi et que d'un seul coup, j'en attendais des nouvelles sans savoir si elles étaient même en vie, et d'un seul coup, j'ai vraiment ressenti ce même soulagement, bonheur dans ma poitrine, quoi, vraiment. 17 février, ça y est, trois petits points, on a des nouvelles de Merci, elle va très bien. Ça sonne un peu agent secret, mais notre contact vient d'entrer dans le camp, on aura des news très précises ce soir. Le 20 février, trois mois avant l'Eurovision, on reçoit la première photo de Merci et sa maman. On découvre la photo d'une maman qui a l'air fatiguée, assez marquée, qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, qu'on avait déjà vue sur les photos sur l'Aquarius, qui a un petit haut rouge Hello Kitty avec des paillettes sur la poitrine, et elle tient dans ses bras une espèce de petite merveille de bébé, de l'âge d'une autre aujourd'hui, hein, exactement. Mmh. Une petite fille avec des tresses magnifiques faites par sa maman, avec au bout des petits élastiques rouges, des petites boucles d'oreilles, des grands yeux noirs et un petit haut à pois blanc. Et voilà, ça c'est la photo. Et derrière, on voit des bâtiments. Ça ressemble à un camp et on voit des bâtiments en dur avec des grilles aux fenêtres. Voilà ce qu'on voit.
Elle se trouve dans un camp de migrants à Catane, en Sicile, à côté de Catane, qui est le plus grand camp de migrants d'Europe. C'est vraiment, c'est comme une ville en fait. Je ne sais pas combien de milliers de personnes qui y vivent.
C'est un ancien camp militaire en dur.
Ouais. Voilà, c'est tous les migrants qui arrivent en Italie, qui arrivent en Sicile, qui sont mis dans ce camp en attendant que leur situation soit, traitée déjà, en fait. Ils attendent ici qu'on prenne leur cas un par un et savoir ce qu'on fait d'eux, en fait. C'est ça, la réalité. Donc, c'est des conditions compliquées. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de violence dans ces camps aussi. Et il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de stress. C'est quand même très spartiate, les conditions.
Et surtout une absence de liberté, ils n'ont pas le droit de sortir du camp.
Impossible de sortir du camp, pour leur sécurité d'abord, et puis aussi légalement. Voilà, ils sont globalement parqués dans ce camp en transit. Et donc voilà, et c'est impossible d'y aller, nous, quoi.
Là encore, on vous explique que vous ne pouvez pas donner de leurs nouvelles parce que ça les mettrait en danger.
On sait qu'il y a dans ce camp qui est le plus grand camp de migrants d'Europe, il y a la mafia.
Il y a plusieurs mafias.
Il y a plusieurs mafias, la mafia italienne, la mafia nigériane, qui est très très implantée. Il y a beaucoup de prostitution, des réseaux de prostitution, etc. Et concrètement, elles peuvent aussi être rançonnées, en fait. C'est-à-dire, il y a la lumière sur eux, il y a les Français qui s'intéressent à la retrouver, c'est qu'elles doivent être importantes, donc on va les kidnapper et leur demander une rançon. Tout est possible, en fait. Nous, on a vraiment peur de tout ça.
Nous, en vérité, le scénario idéal serait de pouvoir dire au monde, regardez, elles vont bien, elles sont là, et leur avenir va être meilleur. Là, c'est encore un peu difficile, mais leur avenir sera meilleur. Mais pour leur propre bien, il est très important de cacher médiatiquement l'endroit où elles se trouvent. Et c'est là que le jeu a commencé à devenir un petit peu plus touchy. C'est-à-dire que nous, on devait cacher le fait qu'on savait que des recherches étaient lancées. Et on a dû cacher à un moment le fait qu'on savait où elles étaient, qu'on les avait retrouvées. Donc on joue cette espèce de double jeu. À chaque interview, on nous demande oui. Si on a des nouvelles de Mercy et Tao, si on sait où elles sont. Il faut toujours qu'on réponde non.
C'est difficile, mais en même temps, encore une fois, on maintient le cap et on essaye d'être droit.
Depuis le jour où on sait qu'on va représenter la France à l'Eurovision avec cette chanson-là, on a en tête, même si c'est tout petit au départ, cette vision de Mercy qui vit en sécurité, possiblement en France, qui va à l'école et qui risque plus rien en fait. Donc c'est ce truc-là qui nous guidait toutes ces années, justement dans tous les moments un peu compliqués. Tout ça, pour ça, ouais, ça valait le coup, ça valait la peine. C'était vraiment... tout était justifié, finalement.
Émilie et Jean-Carl tiennent bon et ne disent rien. Éric Valmire accepte lui aussi de ne pas diffuser l'info tant que Mercy et Taïwo ne sont pas en sécurité. Mais bientôt, ils ne sont plus les seuls à s'intéresser à la petite fille et sa maman.
On nous explique que tous les journalistes de France sont sur le coup pour essayer de les retrouver, pour avoir le scoop en premier, en plein feu d'actualité pré-Eurovision.
Nous, la plus grande crainte qu'on a à ce moment-là, c'est qu'un jour, un JT ouvre sur les images de Mercy et de Taïwo dans le camp, que des journalistes les aient retrouvés, et sans prendre aucune précaution sur leur sécurité, en fait. Et de se dire, mais est-ce que ça va les mettre en danger de les médiatiser. Et notre plus grande crainte, c'est que des journalistes la retrouvent et ils veulent juste faire le scoop et que potentiellement, et on est terrifié par ça, ça peut les mettre en danger. Et c'est exactement ce qui va se passer.
À suivre dans l'épisode 3.
Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram, @nudepodcast. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.